France Inter, le 18-20.
Quelles leçons tirer de la pandémie qui a déjà fait plus de 364 000 morts dans le monde et plus de 28 700 ici en France? Quelles leçons en tirer sur le plan sanitaire, sur le plan social, mais aussi sur le plan environnemental et plus globalement pour notre vie en société? C'est ce que nous allons tenter de voir ce soir avec Bruno Latour, qui est à la fois sociologue, anthropologue et philosophe des sciences. Car pour lui, ce qui vient de nous arriver, et dont nous ne sommes pas complètement sortis d'ailleurs, n'est pas un accident de l'histoire, mais plutôt une répétition générale de ce qui nous attend si nous négligeons d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Nous serons aussi en ligne avec l'infectiologue Odile Lonnet pour un point sur les dernières données concernant l'évolution de l'épidémie, alors que le déconfinement se poursuit. Également au sommaire de cette émission, préparée par Virginie Rouzic et Pierre Dessertaines, parole de soignants de Wafia Kenich et notre rubrique « Heureux déconfinés » avec Antoine Lee qui nous fera entendre les confidences d'un agent de sécurité. Croyez-moi, ça vaut le détour. À 19h20, au téléphone sonne, produire et manger local, c'est plus que jamais une des demandes des Français après cette crise, mais est-ce réaliste? On en débat au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, Siouen et Margot, qui attendent vos appels. Merci à Henri Bérec et Ronan Mahé à la technique, ainsi qu'à Thibaut Cavaillès à la rédaction en chef.
Claire Servagen. Le 18-20.
Bonsoir Bruno Latour.
Bonsoir madame.
Bienvenue sur France Inter, merci d'être avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes philosophe, sociologue, anthropologue des sciences, enseignant à Sciences Po. Alors nous vivons depuis 3 mois un épisode inédit de par son ampleur. J'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, vous qui vous passionnez depuis longtemps, on va dire, pour les microbes.
Je l'ai avec stupéfaction, effroi et complet désarroi. Mais en même temps totalement surpris par l'ampleur, le caractère global, le fait que brusquement tout le monde redécouvrait que nous étions liés aux microbes de mille façons et que chaque relation sociale s'embrasser, se regarder, être près l'un de l'autre, s'asseoir dans un café, etc., changeait complètement si on y ajoutait le microbe. Bon, ça c'est la partie, disons, classique, c'est celle que nous avions apprise au XIXe siècle, lorsque les pasteuriens ont découvert les microbes. Donc il y a un aspect, disons, classique, mais ce qui est évidemment totalement stupéfiant, c'est l'immensité, la rapidité avec laquelle ce microbe, ce virus, a été capable d'avoir un effet global et créer maintenant, à cause des réactions de chaque gouvernement, une crise économique dont la dimension est effrayante et pour laquelle je suis simplement terrorisé, je veux dire. Je ne crois pas qu'on puisse prendre cette affaire d'une façon calme. Mais moi, je l'ai pris toujours en essayant de comprendre quelque chose, c'est un peu mon métier, en essayant de voir est-ce que ça prépare ou pas aux crises qui vont nous tomber dessus, qui nous sont déjà tombées dessus, qui nous entourent. Vous parliez de la sécheresse tout à l'heure dans votre journal, qui est en gros la crise écologique qui exige des transformations absolument douloureuses. Et d'ailleurs, votre premier sujet dans le journal, qui était le drame de Renault, qui est un double drame, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ralentir le nombre de voitures que nous allons acheter, modifier le type de voiture et évidemment transformer de façon très douloureuse la vie des ouvriers de Maubeuge. Donc
une crise totale qui est un avertissement d'une certaine façon pour vous.
Ben ça dépend comment c'est justement là où tout se joue maintenant au déconfinement. Au début, je me suis dit c'est une occasion qu'il faut pas rater pour essayer de voir si c'est faisable de prendre des décisions aussi radicales globales sur des questions qui sont d'abord évidemment de santé, de vie et de mort. Mais ensuite, les autres questions de vie et de mort, à plus long terme, disons, qui sont celles qui nous menacent et qu'on appelle crise climatique ou crise écologique. Maintenant, au moment du déconfinement, ça dépend comment on joue cette affaire.
Alors on va en parler, Bruno Latour, on va parler de ce qui va se passer, mais je voudrais qu'on continue quand même d'analyser ce qui s'est passé, les décisions qui ont pu être prises, parce que vous dites ça nous terrorise ce virus qui a mis tout le monde à l'arrêt. En fait, c'est peut-être pas forcément le virus qui a mis tout le monde à l'arrêt, ce sont les décisions qui ont été prises face à cette pandémie qui effectivement a traversé la planète à une vitesse vertigineuse.
Ben là, ce qui m'a intéressé, moi, et je pense qu'il va y avoir des gens qui vont étudier cette pandémie pendant des années, c'est la diversité des réactions qui nous éloignent de l'idée que le virus agit seul. Vous avez parfaitement raison. C'est le virus plus les réactions des systèmes de santé de chaque pays. Donc on a une gamme de réactions entre ce qui s'est passé en Corée du Sud, en Suède, à Taïwan, en France, en Angleterre, en Amérique, etc., qui montre la diversité des effets que le même virus peut avoir sur des systèmes sociaux et de santé complètement différents. Ça, c'est vrai, vous avez parfaitement raison de souligner ce point. Mais c'est pas le virus simplement qui agit, c'est le virus. Mais justement, c'est une des grandes leçons qui nous prépare à la suite. C'est pas non plus la sécheresse qui agit, c'est la sécheresse plus la réaction, l'usage de l'eau par les agriculteurs, aussi bien que la façon dont on gère la ressource, etc. Donc à chaque fois, ça c'est une assez bonne préparation, si j'ose dire, assez douloureuse, à la suite de ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est pas des objets de la nature qui tombent sur nous de l'extérieur. Et là, de ce point de vue-là, le virus est extraordinaire, parce que plus personne n'ignore que ça dépend aussi des chauves-souris, de la façon dont on mange de la viande en Chine, de la façon dont on fait les expériences. C'est d'ailleurs extraordinaire, tous les sujets dont vous avez parlé dans votre journal traitent en même temps de cette crise d'un point de vue ou d'un autre. C'est-à-dire aussi, on va l'entendre, je pense, de ma collègue infectiologue, sur la difficulté de capter les données concernant cette maladie. Donc c'est une énorme opération d'apprentissage. La question maintenant, c'est ce qu'on fait de cet apprentissage.
Alors je sais que pour vous, il faudrait qu'on en tire les leçons pour des mesures radicales pour lutter contre le changement climatique. Mais encore une fois, Bruno Latour, si on a pu tout arrêter comme on l'a fait avec ce virus, c'est avant tout parce que les gens ont eu peur du virus. Pour la lutte contre le changement climatique, c'est pas sûr qu'on puisse prendre des mesures pareilles que les gens aient aussi peur.
Ah ben, c'est pas forcément la peur et pas forcément bonne conseillère, mais sur les questions de vie et de mort, on nous a aidés, ceci dit, hein, pour avoir le sentir la peur de la maladie. Il faut des statistiques, il faut des appareils de mesure, il faut toute une infrastructure à laquelle, en gros, on est habitué depuis quand même pas mal de temps par le fait qu'on sait très bien que les États s'occupent de la santé de leurs citoyens. Donc c'est une peur également extraordinairement construite aussi par les médias, construite aussi par la façon dont on l'a mise en forme. Sur la question écologique, qui est justement la question qui est ma seule raison pour laquelle je prends la parole sur un sujet qui pour le reste m'échappe complètement, je suis pas du tout épidémiologue, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que vous dites exactement, c'est-à-dire que on a accepté des mesures extrêmement vives, privatrices de liberté, parce que c'était une question de vie et de mort. Et je l'appelle question de vie et de mort numéro 1. La question de vie et de mort numéro 2, c'est-à-dire les conditions d'existence qui nous permettent de subsister à plus long terme. Là, on est obligé de se dire, si l'État nous imposait des mesures drastiques, si par exemple l'exemple que vous citiez dans votre journal est parfait, si on dit on arrête la voiture à combustion interne et maintenant c'est fini, on de façon très directive on ne fait plus que des voitures électriques ou pas de voitures du tout et que des transports en commun, on voit bien très bien que l'État n'aurait absolument pas l'autorité et que on ne le suivrait pas. Ça serait pas simplement des manifestations à Maubeuge, ça serait partout des révoltes extraordinaires. Donc c'est le problème actuel de la minute où nous sommes, c'est ça. On a reconnu une autorité à l'État pour nous confiner, pour essayer de limiter la casse pour un virus qui est une question de vie et de mort individuelle de centaines de milliers de gens, ce qui est déjà évidemment très important. Et puis le cas suivant, comment construire l'autorité de l'État pour arriver à ce que nous partagions des mesures aussi drastiques sur des questions qui viennent et qui sont évidemment encore plus importantes. Donc question de vie et de mort, ce que j'appelle numéro 2. Eh bien là, il faut reconnaître que nous n'avons pas encore l'État capable. Il n'a pas l'autorité pour faire ça.
Alors ça, on va en parler. Parce que Emmanuel Macron, au début, nous a dit « nous sommes en guerre ». Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette rhétorique guerrière.
Il a utilisé un procédé rhétorique assez simple, mobilisateur, pendant 5 minutes. Et puis, quand on réfléchit, nous allons l'apprendre, je suppose, de l'infectiologue. Ça n'a aucun sens de parler de guerre. On vit avec les microbes et les virus en particulier. On en a partout, on est rempli, on est couvert de ces virus. Donc si on était en guerre avec eux, on produirait une situation d'asepsie totale. C'est d'ailleurs un énorme problème d'hygiène qui n'aurait pas de sens. Donc c'est pas je crois qu'il a dit ça, il ne faut pas trop lui en vouloir. Enfin, il ne faut pas lui donner trop d'importance. En tout cas, on n'est pas en guerre. On est en modus vivendi, c'est-à-dire trouver une solution d'acceptation à bas bruit de la présence du virus. D'ailleurs, ce qui se passe quand on est déconfiné, mais qu'on a quand même appris un peu à se laver les mains, à pas trop s'embrasser, à prendre un peu de distance, on va trouver une espèce de modus vivendi avec ce virus. En tout cas, il faut trouver ce modus vivendi. Donc la métaphore de la guerre elle interprète très mal la situation, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simplement le virus qui agit, c'est aussi le système de santé, le système juridique, les habitudes culturelles. La Suède ne réagit pas de la même façon que les Iraniens ou les Américains du Sud, etc. Donc la notion de guerre n'a pas de sens. Par contre, il y a une guerre beaucoup plus évidente cette fois-ci entre ceux qui veulent profiter de la reprise pour disons développer leur emprise sur notre existence quotidienne, et puis ceux qui résistent. Là il y a des fronts de lutte qui vont être assez visibles, mais qui malheureusement, comme le cas de Renaud de Maubeuge dont vous parliez tout à l'heure, partagent l'ensemble des classes sociales actuellement. L'autre leçon de la crise, beaucoup plus que la guerre, c'est ce qui a rendu visible à tout le monde, même des gens qui étaient peu concernés par ça, les inégalités sociales et raciales. Vous parliez dans votre journal des luttes des émeutes en ce moment aux États-Unis, mais en France aussi, on a rendu visible des divisions qu'on essayait de rendre un peu invisibles. Sur les gens qui travaillent, les gens qui sont en télétravail, etc. Des choses qui maintenant sont complètement communes. On apprend énormément grâce à cette crise. On apprend beaucoup sur le microbe, on apprend beaucoup sur les virus, et on apprend beaucoup sur les inégalités sociales. Ce qui manque, c'est l'étape suivante.
Alors l'étape suivante, on va en parler, Bruno Latour. Je précise juste, parce que vous faites beaucoup référence au journal de 18h, c'était pas moi, hein, c'était Alexandra du Boucheron. Je le précise quand même pour que...
Excusez-moi madame, je suis un peu sourd d'oreille.
C'est pas un souci, je voulais juste faire cette petite mise au point. Je voudrais maintenant qu'on en arrive à notre rubrique Parole de soignants, comme tous les soirs, parce que les soignants sortent pour beaucoup épuisés de cet épisode, et pas que les hospitaliers. On va écouter Anne, elle est généraliste dans une petite commune de la région Centre. Travailler dans ce désert médical a été épuisant, elle est à bout physiquement et psychologiquement. Écoutez ce témoignage recueilli donc par Wafia Kenich, qui est particulièrement émouvant.
J'ai eu des périodes où j'étais toute seule pour gérer les patients. Donc le maximum, ça a été 50 patients à gérer par jour. Donc il faut pas non plus se leurrer, on peut pas faire un travail de qualité dans ces conditions-là. Donc on fait au mieux comme on peut. Et puis, et en constatant l'échec qui s'ensuit avec les gens qui meurent, quoi. À partir du moment où les médecins spécialistes ferment leurs consultations, où l'hôpital est complètement saturé et ne peut plus accueillir les patients pour que des motifs très graves et peu de patients pour d'autres motifs que le Covid, parce qu'ils ont été vraiment saturés. Nous, du coup, on se retrouve sous tension à gérer des situations cliniques que nous ne gérions pas auparavant. Tout ce qui est dépistage, mammographie, cancer colorectal, frottis, en sachant que les gens, ils ont déjà du mal à avoir des rendez-vous pour le faire. Oui, moi, je suis pas sereine pour l'avenir. Moi, je vais pas bien. voilà, je suis épuisée. Je vais pas bien. Mais pour l'instant, je m'autorise pas. J'ai pas le droit. Donc voilà, l'objectif, c'est de tenir Et voilà. Mais c'est sûr, j'ai des troubles du sommeil. Enfin, c'est difficile. Quand on travaille dans une zone déficitaire, il y a beaucoup de médecins âgés, du coup, qui ont même passé l'âge de la retraite, qui travaillent. Donc ces médecins-là, bah, ils ont été confinés, et c'est normal, mais du coup, ils étaient plus là. Donc, mais à la fois, si vous voulez, pour moi, c'était vraiment important d'être là pour mes patients, parce que je me dis que si je suis plus là, qui y reste, quoi. Enfin, et c'était important que mes patients, je leur ai beaucoup répété, de leur dire, mais je suis là, si vous avez un problème, je suis là.
Parole de soignant, un témoignage qui en dit long. Bruno Latour, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'on vient d'entendre. Les soignants ont été en toute première ligne, ils ont manqué de tout, ils alertaient depuis longtemps, faut qu'on les entende.
Je crois que l'inversion de la hiérarchie est plus générale. Les soignants sont pris dans cette situation de brusquement s'apercevoir qu'on a besoin d'eux et que tous les métiers de l'attention et du soin deviennent absolument nécessaires, bien qu'ils étaient jusqu'ici relativement méprisés, parce que, comme le rappelait très bien David Graber dans un article de Libération cette semaine, on a de mal à calculer leur productivité. Maintenant, on se dit, bah, finalement, c'est peut-être pas la peine de calculer leur productivité. Ce qui compte, c'est la quantité de soins et d'attention qu'il faut dans ces métiers. Même chose avec les instituteurs dont tout le monde qui a essayé d'enseigner à ses enfants pendant la période du confinement s'est aperçu que ces instituteurs parfaitement méprisés pour leurs compétences, ben, finalement, ce sont aussi des métiers du soin et de l'attention et qu'on peut pas les remplacer. Donc il y a une espèce d'inversion de l'échelle des valeurs. Parce qu'on se dit, mais bon, des gens qui sont en télétravail, est-ce qu'ils sont aussi forcément indispensables que ceux qui donnent ces métiers du soin? J'ai l'expression qu'utilise Graber dans son article, et je pense que c'est une autre leçon de la Covid, avec la transformation, la visualisation des rapports de classe. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage qui est absolument essentiel pour la suite des opérations.
Alors on va être en ligne à présent avec la professeure Odile Lenay. Bonsoir.
Bonsoir.
Infectiologue à l'hôpital Cochin. Vous avez entendu vous aussi ce témoignage, Odile Lenay. J'aimerais avoir votre réaction. Et puis j'imagine que des situations très difficiles, vous en avez vécu vous pendant ces deux mois et demi dans votre service également.
Alors ce témoignage est évidemment laisse vraiment très bien passer la détresse finalement dans laquelle ce médecin s'est retrouvé dans une situation où on sait que la médecine dans certaines régions de France est très sous-dotée et qu'on a vraiment des déserts médicaux, donc dans des situations où d'une part il y a plus de malades, des malades potentiellement graves et où le recours à l'hôpital est devenu impossible, bah ces médecins ont été sollicités et ont été en première ligne devant la détresse des gens qui ne savaient pas à qui d'autre s'adresser qu'à leur médecin traitant. Alors à l'hôpital, moi je ne suis pas directement confrontée puisque on est venu, nous, notre équipe, en soutien pour la recherche, mais je sais, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec beaucoup de gens, que les soignants, même les plus aguerris, que ce soit les médecins, mais évidemment aussi les infirmières ou les aides-soignantes qui sont plus en contact avec les patients, ont vécu des semaines extrêmement difficiles, confrontées à des décès très nombreux, puisque en particulier dans les services de gériatrie, ils ont eu jusqu'à 30 à 40% de leurs patients qui sont décédés dans des situations difficiles, puisqu'il n'y avait pas de visite, pas le droit de visite, la nécessité de mettre très rapidement les patients décédés dans des housses hermétiques pour les problèmes d'hygiène. Donc tout le monde a vécu une situation qui a été extrêmement tendue pour permettre à toutes les personnes d'être soignées dans les meilleures conditions, mais dans une situation où on était confronté à un virus pour lequel on n'avait pas de traitement, peu de connaissances. On commence maintenant à avoir des connaissances, mais très peu de connaissances. Et un virus avec une mortalité qui reste élevée, en particulier pour les plus fragiles et pour les plus âgés.
Odile Lenay, au vu des derniers chiffres dont on dispose maintenant, de la situation, est-ce que vous êtes rassurée pour la suite?
Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on est rassurée. Ce qu'on peut dire, c'est que le confinement a porté ses fruits. Ça a été une épreuve très difficile pour tout le monde, à différents niveaux. Ça sera encore une épreuve difficile dans les mois et probablement dans les années qui viennent, sur un plan économique, sur un plan sanitaire. On est aujourd'hui dans une situation où on sait que le virus continue de circuler et que si on ne fait pas tout ce qu'on peut pour éviter qu'il se transmette à nouveau, on n'est pas à l'abri de voir ce virus circuler. Alors peut-être pas avec l'intensité qu'il avait avant le confinement, mais on a pour l'instant, et tant qu'on n'aura pas ni un traitement efficace, ni un vaccin pour prévenir cette infection, au moins chez les gens les plus fragiles, on n'est pas complètement rassuré sur la façon dont les choses vont se passer dans les semaines ou dans les mois qui viennent.
Alors Odile Lenay, vous êtes une spécialiste des vaccins. Est-ce qu'on sait maintenant, on peut espérer à quelle échéance obtenir un vaccin ?
Alors les vaccins, c'est la première fois qu'on voit une recherche sur le vaccin aussi intensive et aussi rapide. On comprend bien pourquoi, puisqu'on est vraiment dans une situation sanitaire inédite, puisqu'on a la possibilité de découvrir beaucoup de choses sur ce virus. La cartographie de ce virus a été possible quelques semaines seulement après l'apparition des premiers cas. On connaît énormément de choses de ce vaccin. On commence à connaître la réponse immunitaire qui est mise en jeu avec cette infection, mais on ne connaît encore pas tout. Il y a encore des discussions pour savoir quel est le rôle des anticorps, si les anticorps qu'on connaît le mieux, mais probablement qu'ils ne sont pas les seuls utiles pour éviter l'infection ou pour éliminer le virus. On sait qu'il y a d'autres types de cellules, ce qu'on appelle les lymphocytes T, qui ont très probablement aussi dans cette infection un rôle. Et les recherches qui commencent maintenant à être publiées montrent le rôle de ces lymphocytes. Donc toutes ces recherches, toutes ces données qui sont maintenant disponibles permettent d'espérer qu'on va pouvoir mettre en place un vaccin. Et quand on s'intéresse au développement vaccinal, et on l'a vu depuis quelques semaines, ce développement s'est accéléré. Hein, c'est un développement qui est extrêmement rapide, on n'a jamais vu ça, avec déjà des résultats sur des premiers vaccins qui montrent que chez l'homme, ils sont capables d'induire une réponse immunitaire. On a des résultats chez l'animal qui montrent que la réponse immunitaire qu'induit ces vaccins, elle permet de protéger contre l'infection. Donc maintenant, ce qui va être important, c'est d'arriver à démontrer que chez l'homme, ces vaccins, ce qu'on appelle ces candidats vaccins, puisque pour l'instant ils sont encore en cours de développement, non seulement induisent une réponse immunitaire, mais sont capables de protéger contre l'infection. Et ça va être tout l'enjeu des prochains mois, d'essayer de mesurer l'efficacité de ces vaccins, mais aussi, bien sûr, d'avoir suffisamment de données sur leur sécurité, puisque, comme toujours, dans le domaine des vaccins, il est extrêmement important, il est même primordial de vérifier que, en vaccinant, on protège, mais on protège avec une garantie de sécurité.
Alors, on attend évidemment le vaccin avec impatience. Un mot des traitements, en tout cas d'un traitement qui a fait tellement polémique. On ne va pas revenir sur le débat ce soir sur pour ou contre l'hydroxychloroquine, mais quand même, il s'est passé quelque chose d'important ces deux derniers jours, puisqu'il y a une des plus prestigieuses revues médicales, le Lancet, dont les travaux, les résultats ont été mis en cause, qui a même corrigé une partie de ces données. Est-ce que ces désaccords scientifiques, ça fait partie de la médecine, Odile Lenay ?
Alors, je pense que ça met surtout en évidence la difficulté de faire de la recherche dans une situation de crise. Parce qu'en fait, on a dû, dans le même temps, s'organiser pour prendre en charge les patients, en particulier à l'hôpital, en réanimation, mais aussi finalement en ville, et on l'a vu dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD. Et en même temps que nos systèmes de santé étaient assaillis de patients, saturés de patients, il a fallu mettre en place des protocoles de recherche dans cette situation d'urgence qui a rendu particulièrement difficile les choses. Et on comprend donc que dans cette situation où on n'a pas de traitement, où il est extrêmement difficile pour les médecins de s'occuper de patients sans leur proposer de traitement, on a essayé les uns et les autres de mettre en place des essais, d'inclure au maximum les personnes dans les essais, les patients dans les essais pour mesurer l'intérêt et l'efficacité des traitements, mais tous les patients ne peuvent pas être inclus dans des essais. Et donc, certains médecins, certains hôpitaux qui ne pouvaient pas participer à ces essais ont mis en place les traitements qui leur paraissaient les plus efficaces en fonction de ce qu'ils savaient du virus, de ce qui avait pu être mis en place dans d'autres pays, en particulier évidemment en Chine ou alors en Italie, qui nous ont un peu précédés. Et donc, ensuite, ils ont voulu évaluer aussi ce qu'ils avaient fait. Donc, on a en permanence des publications qui proviennent d'hôpitaux qui ont traité au mieux leurs patients, qui veulent évaluer ce qu'ils ont fait et qui, en fait, permettent des résultats qui sont extrêmement importants, bien évidemment, mais qui ne permettent pas de répondre aux questions avec le même niveau de preuve que ce qu'on peut avoir avec un essai ce qu'on appelle randomisé contrôlé, c'est-à-dire où les patients sont tirés au sort et où on peut vraiment comparer à gravité équivalente l'efficacité de tel ou tel traitement par rapport à un traitement symptomatique. Et c'est aujourd'hui toute la difficulté qu'on a d'avoir finalement en continu des résultats d'études qui sont des résultats soit sur des petits groupes, soit des résultats de cohorte, ce qu'on appelle de cohorte, c'est-à-dire sans groupe contrôle, en n'ayant toujours pas de données d'essais randomisés de grande taille qui permettent de nous dire que tel médicament ou tel autre va marcher. Bon, ce qu'on peut quand même probablement penser, c'est que s'il y avait vraiment un médicament miracle, on le saurait. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans la situation où on évalue quel est le traitement qui peut permettre une efficacité par rapport à un traitement symptomatique, mais on n'a toujours pas un traitement d'une très grande efficacité.
D'où la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup, professeur Odile Lenay, de nous avoir accordé cet entretien. Bruno Latour, je reviens vers vous un instant par rapport à ces désaccords scientifiques dont on parlait il y a un instant. On comprend bien que aujourd'hui la difficulté c'est de comprendre en marchant, hein, tout se fait en direct, mais ces désaccords scientifiques, ils ont toujours existé dans l'histoire des sciences?
Oui, c'est la nouveauté, évidemment, comme le rappelait Madame Lenay, c'est le faire en situation de crise. Mais je mettrais quand même dans les apprentissages nombreux de ces 3 mois le fait que beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses sur les difficultés comptables, les difficultés statistiques, les difficultés de cohorte dont parlait tout à l'heure ma collègue Lenay. Donc je crois qu'il y a aussi évidemment la tendance est d'attendre de la science une réponse définitive. J'ai pas mal étudié ces questions moi-même. La situation de controverse, elle est normale étant donné l'extraordinaire difficulté d'apporter la preuve. Mais dans la situation qui est celle de crise et en plus une extrême politisation des réactions des uns et des autres, je crois que ça rend le métier un peu plus difficile. Et en même temps, je pense qu'on a quand même appris beaucoup de choses sur les virus. La différence entre virus, bactéries, c'était pas des choses évidentes. Toute une série de choses que plus le public en apprend sur la difficulté de produire la science, plus il aura de respect pour les quelques données et les quelques faits sur lesquels on arrive à s'accorder après beaucoup de disputes, disons, pour le dire vite.
C'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de médecins sur les plateaux de télévision. Il y a une soif de connaissances scientifiques. Est-ce qu'on devrait enseigner un minimum de rudiments de médecine aux enfants, Bruno Latour?
Ben, en tout cas, un rudiment de ce que c'est que la pratique scientifique. Oui, ça, c'est un des grands débats que je poursuis, ce que j'appelle les humanités scientifiques depuis longtemps. Si on attend de la science la vérité, on n'obtient rien. Si on attend de la science le travail extraordinairement complexe de l'expérience, de la quantification, de la vérification, etc., on donne un goût au sens aussi littéraire, d'ailleurs un goût artistique aussi, pour la qualité des travaux. On peut reconnaître des bons et des mauvais travaux. On apprend à partager avec les scientifiques leurs difficultés, au lieu d'attendre, comme on l'a vu dans plusieurs des cas de ces 3 mois, qu'ils donnent des vérités ou inversement qu'on s'abrite derrière leurs certitudes, dont on s'aperçoit qu'elles ne sont pas toujours aussi certaines, pour prendre des décisions politiques qu'on n'osait pas prendre. Vous voyez, il y a tout un travail à faire sur l'apprentissage du travail scientifique, et un deuxième travail sur la distinction entre science et politique qui n'est pas toujours maintenue dans des termes compréhensibles. Donc je crois que ça fait partie aussi des acquis, si j'ose dire, si je peux me permettre de dire, acquis pour une situation aussi étrange et très douloureuse de la Covid.
Alors on va continuer à réfléchir à tout ça et se demander comment sortir de cette crise sans que le monde d'après soit pire que le monde d'avant. On en parle dans quelques minutes, le temps d'écouter un petit peu de musique.
J'ai vu de mes yeux grands ouverts les idées reçues, les paroles en l'air, les éclats d'obus, les éclairs, les coups de massue, les coups de tonnerre. J'ai bu à tort et à travers les discours décousus, sans revers. J'y ai cru, j'en suis pas fière. J'ai reconnu la vérité, la vérité, la vérité.
La vérité nue, Junior, un choix musical signé Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie du philosophe Bruno Latour jusqu'à 19h. Alors Bruno Latour, on va voir maintenant comment sortir de cette crise avec ce que vous proposez de faire. Vous voudriez reconstituer des classes, c'est ça? Expliquez-nous.
Ben, on entend la question tout à l'heure dont on parlait de Renaud, c'est une parfaite illustration. Il y a des classes sociales qu'on a bien définies pendant un siècle et demi avec les problèmes de production et de distribution des résultats de cette production. La question sociale, pour le dire vite. Et maintenant, on rentre dans une autre question où il y a des conflits. Ben, le conflit parfait entre la voiture et le maintien des intérêts de classe au sens social, et des problèmes de CO2 qui sont des intérêts aussi, mais des intérêts d'une classe qui n'existe pas, et qui divise à l'intérieur de chaque classe, qui divise les ouvriers de Renault, les patrons de Renault, les utilisateurs de voitures qui en ont absolument besoin, etc. Donc la question fondamentale, c'est celle dans laquelle on rentre, c'est de redéfinir nos attachements de classe, nos intérêts de classe, mais avec une extension. Et en gros, tout le monde est en train de faire ce travail. Tous les partis anciennement socialistes sont tous des partis aussi écologistes maintenant. Il y a, je crois, 8 ou 10 propositions de modifications assez profondes qui sont maintenant sur la table. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on profite de la reprise pour les prendre au sérieux? Ou bien est-ce que tout revient comme avant et que on reprend, la production reprend et on se retrouve exactement comme avant, comme en janvier, devant une crise dont l'extension n'a pas du tout diminué.
Mais la crise, elle est pire aujourd'hui, Bruno Latour. Et ce que les gens nous disent, c'est peut-être ce qu'ils veulent avant tout, c'est remplir leur frigo et que le climat, c'est peut-être pas l'urgence du moment.
Le climat, c'est la pandémie. Qui est déjà là avant et qui est là après. C'est des problèmes de vie et de mort qui sont aussi directement reliés à la survie des gens que la question de la vie et de la mort, de leur parents ou de leurs grands-parents. C'est la même question, mais à d'autres échelles. La question, c'est est-ce qu'on utilise la première pour comprendre la deuxième ou pas? Quels sont les... Le problème, c'est qu'on est divisé sur ces questions. On est tous divisés. Remplir son frigo, oui, mais avec quel... Qu'est-ce qu'on met dans le frigo qui permet à d'autres personnes... On disait encore dans le journal, qui n'est pas le vôtre, je le sais...
que mais vous étiez attentif, et ça nous fait plaisir, en tout cas.
qui préférait le circuit court. C'est pas le même frigo. On remplit pas le frigo de la même façon. D'ailleurs, on n'a pas le même frigo. Ce frigo n'est pas le même produit. Il n'utilise pas des gaz à effet de serre extrêmement dangereux qui viennent de Chine. Donc, sur chaque détail de l'existence, nous sommes en lutte à l'intérieur de nous-mêmes et les uns avec les autres. Donc, il ne faut pas continuer à opposer, remplir le frigo et soigner le climat. Le climat, il est dans le frigo. Si vous avez un frigo qui est fabriqué avec des produits chinois illégaux, d'ailleurs, qui modifient le climat, vous êtes totalement parti de disputes extrêmement intenses où vous êtes à la fois la victime et le responsable. Tout ce travail, toute cette confusion, toutes ces controverses, il faut pouvoir les clarifier.
Alors, justement,
le seul moyen de les clarifier,
Latour,
c'est de demander aux gens.
Justement, alors on y vient, à vos fameux cahiers de doléances. Pourquoi vous prenez justement la rédaction de tels cahiers?
Ben, il faut s'entendre sur ce qu'on entend. Si ces cahiers de doléances, c'est juste dire je pense que, et moi je voudrais que à la fois avoir mon frigo plein et que le climat aille très bien, ça va pas très loin. Mais si on commence à décrire de façon un peu précise le type de frigo qu'on veut, par exemple, est-ce que c'est un frigo qui est rempli de produits locaux? Est-ce que ces produits locaux donnent du travail à ceux qui sont justement perdu leur travail? Parce que chez Renault, on ne produit plus de voitures. On commence à faire des liens et établir des liens qui ressemblent un peu à les doléances qui ont été faites par nos ancêtres, par beaucoup de nos ancêtres en 89, pendant 6 mois et en 4 mois même, et qui me sert un peu de modèle, parce que c'est un grand moment révolutionnaire, mais c'est aussi un moment où les Français ont pris conscience d'eux-mêmes, ils ont pris conscience de ce dont ils dépendaient, de ce qu'ils pouvaient, et ils ont commencé à dire tout ce qui n'allait pas et comment.
Alors, donc vous voulez consulter les Français en fait?
Eh oui, madame, consultez les Français. Ça paraît extraordinaire. C'est eux qui sont les mieux placés. C'est eux dont la vie et la mort qui sont concernés directement. Donc, je sais que ça étonne un peu les fonctionnaires.
Non, je me pose juste la question parce qu'effectivement, il y a eu un grand débat l'année dernière et on a les gens sont allés dire,
débat,
par exemple, qu'ils voulaient,
ce grand débat.
Ils voulaient plus de services publics, ils voulaient des moyens pour l'hôpital. Ils l'ont dit tout ça, par exemple.
Oui, mais ils ont donné leur opinion. Ils n'ont pas donné la description de la difficulté de passer de leur opinion à la réalité. Donc, et ils ont confié de façon un peu naïve la réalisation de tout ça à l'État qui était supposé capable de faire ces choses. Mais comme on l'a dit au début de votre interview, l'État est capable d'imposer des choses très douloureuses et très liberticides pendant un temps pour des questions de santé publique, et il n'est absolument pas dans cet État-là pour des questions qui sont des questions écologiques. Donc le problème, c'est qu'il y a l'opinion et l'émission d'un vœu n'entraînent absolument aucun détail, aucun suivi, disons. Et c'est pour ça, comme on a maintenant, je crois, 7 ou 8 propositions assez détaillées qui viennent de un peu tous les secteurs de la société civile, de la gauche et même du centre, sur des mesures qu'il faudrait appliquer, testons-les en demandant aux Français lesquels avec lesquels ils sont d'accord ou pas.
Et c'est ce que vous avez commencé à faire avec le site internet du Media Lab de Sciences Po. Vous avez lancé toute une consultation, c'est ça?
Oui, j'ai essayé, mais ma c'est quelque chose de très modeste et qui est à la limite de la recherche. C'est pour voir comment les gens passent. Le test, c'est de savoir si l'opinion, tout simplement, je voudrais que, je sais pas, arrêter l'aviation, arrêter les avions ou le tourisme de masse, se transforme dès qu'on repose la question différemment, ce que le grand débat n'a pas fait, en disant, oui, mais attendez, les gens que vous éliminez comme ça, en disant, il n'y a plus de voiture électrique, il n'y a plus de voiture à moteur à combustion interne, où il n'y a plus d'hôtesse de l'air, et vous en faites quoi de ces gens? Comment vous allez pratiquement faire la mutation?
Monsieur Latour, ça c'est le débat politique a priori qui doit régler ces questions-là. Vous faites pas confiance à la structure politique telle qu'elle est pour résoudre
non,
ça?
Parce que ni les députés, ni les élus, ni beaucoup des maires, il y en a bien sûr qui sont différents, mais il n'y a pas la pression de la société civile ne s'est jamais exercée sur eux autant que sur la question de la justice sociale ou du développement économique. Donc l'idée de confier toutes ces questions, la réalisation de toutes ces choses controversées qui entraînent des débats féroces à l'intérieur de nous-mêmes, pour remplir ce fameux frigo que vous avez cité tout à l'heure. Comment vous voulez que les élites politiques fassent le boulot? C'est à nous de faire le boulot. Et c'est ça les cahiers de doléances, c'est ça qui est fantastique dans les cahiers de doléances. C'est précisément un aveu d'ignorance du roi et de ses conseillers qui a demandé aux Français, mais qu'est-ce qu'on fait? On est en situation de banqueroute, donnez-nous des idées. Et c'est pas des opinions, c'est des descriptions de territoire. Et il faut lire ces cahiers de doléances pour comprendre l'extraordinaire effet qu'ils ont eu sur les Français qui ont pris conscience d'eux-mêmes. Alors je ne veux pas revenir à 89. En plus, à 89,
non, surtout que là, il est conséquent. Surtout que là, malheureusement, Bruno Latour, on va devoir se quitter. Mais avant de se quitter, je voudrais juste vous faire écouter notre rubrique Heureux déconfiné. C'est la parole de quelqu'un qui a vécu cette crise, de son poste d'agent de sécurité. Antoine Lee nous fait participer à cette rencontre. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Patrick Gernidos est agent de sécurité depuis 37 ans, plutôt pour les émissions de télé en public et dans l'événementiel. Mais la crise sanitaire a mis fin à ce type de mission. Il s'est donc reporté là où il y a du travail, notamment dans les supermarchés. Bonjour Patrick Gernidos.
Bonjour.
Patrick, avez-vous le sentiment que votre profession est reconnue à sa juste mesure dans cette crise sanitaire ?
Eh ben non, parce que déjà, bon, on n'a jamais parlé de nous. On devait, soi-disant, les gens qui étaient en première ligne, avoir une prime. La prime, on n'entendait plus parler. On n'aurait pas été là, ben, les magasins auraient été envahis n'importe comment. Ça aurait été du tout et de n'importe quoi.
Vous êtes confronté à quel type d'abus ?
Les incivilités des gens qui prennent, par exemple, 10 rouleaux de paquets de papier toilette au lieu d'en prendre 2, 15 paquets de farine. Même avec le déconfinement, les gens, quand même, abusent un peu, quoi. L'abus de consommation, quoi.
Comment ça se passe avec les clients ? Est-ce que ça se passe bien ?
Il y a toujours des râleurs, ils ne comprennent pas que, par exemple, les caisses, on n'ouvre pas des caisses l'une à côté de l'autre. On ouvre une caisse sur deux, de manière à ce que les gens ne fassent pas la queue les uns à côté des autres. Eh ben, il y a des gens qui disent que c'est un peu trop long parce que ils doivent faire la queue. Et alors donc, ben, moi, je dois intervenir, leur expliquer que c'est pour leur bien-être. Et c'est de là que nous, on est très exposés parce que des fois, le ton monte. Ouais, de toute façon, vous servez à rien, vous foutez rien, vous êtes là pour emmerder les gens. Bon, moi, en plus, je suis de couleur. Ouais, ici, on est en France. Et pendant le Covid, les gens ont doublé d'agressivité par rapport à avant. Et les gens n'ont pas la distance de sécurité respectée quand ils viennent vous interpeller, quoi. Ils s'approchent de vous, ils vous interpellent et tout, et c'est un peu dangereux. C'est de là où on est quand même vraiment, vraiment en première ligne, quoi.
L'une des missions principales d'un agent de sécurité dans un magasin, c'est de lutter contre le vol. Ça, vous avez encore le temps de le faire un peu ou pas ?
On a le temps un peu de le faire quand même. Donc moi, j'ai un agrément à la palpation. Fouiller quelqu'un qui a volé, c'est difficile. La distance de sécurité, on l'a plus, là.
Est-ce que vous avez constaté une recrudescence des vols ?
Eh ben, il y a plus de vols, hein. Il y a plus de vols, hein. Il y a des gens qui ont plus eu de travail, qui ont des problèmes d'argent, parce qu'il y a des payes qui sont pas rentrées. Moi, je peux prendre un exemple, c'est que, il y a 2 semaines, on a arrêté une petite mamie de 72 ans, quoi. Parce que sa retraite était pas arrivée, parce que l'administration avait pas suivi. Et 72 ans, ça fait de la peine, quoi. Hein.
Vous, dans quel état d'esprit vous partez au travail ?
Ça fait peur, quand même. Quand on entend tous les gens qui meurent, tout ça, d'ailleurs, celui qui est décédé à, le responsable de la sécurité de Paris Nord 2, que je connaissais très bien puisque j'ai travaillé avec lui, ça m'a fait un choc, quoi. Hein. Ça peut être moi demain. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on travaille parce que, comme on dit avec un peu d'humour, les factures n'ont pas le Covid. Hein. Elles arrivent dans la boîte aux lettres.
Hein. Un grand merci pour ce témoignage, Antoine Lee. Bruno Latour, voilà de quoi alimenter vos cahiers de doléances. Hein. Il nous reste 1 minute, allez, vous allez avoir le mot de la fin.
Ben, il faut utiliser la conférence de citoyens, vous savez, cette conférence de 150 personnes, pour tester leurs propositions, non pas par un référendum, mais par l'équivalent d'un test dans toutes les mairies de France. Je crois que ce serait ça qui serait utile et qui rappellerait un peu l'esprit des cahiers de doléances.
Merci beaucoup Bruno Latour, et je pense que le thème du téléphone sonne tout à l'heure va vous intéresser parce que ce sera produire et manger local, rêve ou réalité, voilà, de quoi alimenter notre fameux frigo et réfléchir à comment on va vivre ensemble pour la suite. Merci Bruno Latour.
Merci
d'avoir été avec nous ce soir. Donc le téléphone sonne pour y participer, pour témoigner, c'est toujours le 01 45 24 7000.